sol majeur.
Sol majeur.
Sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Elle s'appelle Rosemary Stanley et c'est la voix de Moriarty, ce groupe français qui sonne tellement américain pour nous, petites grenouilles. Groupe de cabaret folk en tournée internationale avec Gee Whiz, But This Is Lonesome Town chez Naïve. Un premier album, humblement disque d'or. Donc disons simplement que Rosemary Stanley Moriarty, découverte par un certain Jérôme Deschamps, est aujourd'hui dans le fauteuil d'un sol majeur avec ce bric-à-brac qui la caractérise, sa tête de chamois, son lampadaire années 50, son imaginaire, roulant au volant d'une vieille Chevrolet entre Lewis Carroll et Jack Kerouac, et puis surtout sa double culture, donc en voiture.
Try to understand, this chalk rubs off easily. A person, a smart cookie like you, I wish your good luck would rub off on me.
Bonjour Rosemary Stanley Moriarty.
Bonjour.
Je vais vous appeler Rosemary Moriarty, hein. Ça sera plus court quand même. Animals Can't Laugh, donc c'est le titre qu'on vient d'entendre en se demandant évidemment de quel animal il peut s'agir.
C'est tous les animaux. Les animaux ne rient pas, ne peuvent pas rire, et ça s'adresse, c'est une chanson un peu de vengeance qui s'adresse justement à une personne qu'on traite un peu d'animal justement.
On a toujours l'impression, nous, Européens, de voir des troupeaux de bisons surgir au coin de vos chansons, mais il paraît justement que c'est un fantasme très européen, ça.
Un fantasme européen ?
Oui, quand on vous écoute. Vous sonnez américain pour nous, petite grenouille. C'est ce que je disais. Hein.
Alors, c'est très amusant parce que pour certains Américains, nous ne sonnons pas du tout américains. On sonne assez exotique parce que, en fait, effectivement, ils reconnaissent des influences de blues, de folk, de country, mais aussi on a des influences de musique africaine, des influences de musique asiatique et puis même européenne qui sont de la cold wave, que ce soit U2 ou Depeche Mode.
Oui, d'accord,
aussi.
D'accord. Mais vous sonnez un peu Strangers pour eux.
Pas Strangers, mais je saurais pas vraiment dire, mais je crois qu'ils arrivent à avoir une filiation avec la musique américaine, mais en même temps, c'est quelque chose d'un peu, enfin, d'assez roots, un peu décalé par rapport à ce qui se fait aux États-Unis aujourd'hui, à mon avis. Et il y avait notre réalisateur qui est américain, la personne qui a réalisé notre disque, qui disait mais ça sonne un peu comme si les émigrants européens venaient d'arriver aux États-Unis et faisaient de la musique. Voilà, en fait.
Ce qui n'est pas faux.
Voilà, ce qui n'est pas faux, mais c'est l'inverse. Donc, voilà.
Alors, on est déjà rassuré de voir, enfin, c'est pour les retardataires de votre carrière, même si elle n'est pas longue, mais elle est spectaculaire. Rassuré de voir que vous parlez complètement français, Rosemary, mais presque déçu de voir que c'est sans accent.
Je peux en faire un si vous voulez.
S'il te plaît.
Oui.
Alors, ça, c'est peut-être la faute à la réputation de votre groupe franco-américain. Ça cache une double culture, votre double culture, en fait.
Oui, qui n'est pas que double, elle est triple, quadruple, puisque nous avons des origines donc françaises, américaines, mais aussi suisses, vietnamiennes et péruviennes.
Mais en ce qui vous concerne, c'est vraiment franco-américain,
ce c'est vraiment
que peut-être la balance penche plus d'un côté que de l'autre.
Oui, alors dans un certain monde réel, elle penche d'un côté, puis dans l'imaginaire de l'autre. C'est vrai que j'ai été élevée en France et d'une mère française et d'un père américain. Et j'ai fait mes études en France. Et donc voilà, donc je suis. Je n'ai pas vraiment vécu aux États-Unis. Mais il n'est pas dit que je n'irai pas.
Vous y vivez un petit peu dans vos chansons, en tout cas.
Exactement.
Franco-américaine, ça c'est sûr. Nous accueillons donc aujourd'hui Rosemary Moriarty au coin du feu avec une première question en sol majeur.
អ្នកស្គាល់អ្វីខ្លះអំពីដូនតាអ្នកQue savez-vous de vos ancêtres?
Alors, vous êtes polyglotte, mais vous ne parlez pas encore le cambodgien.
Non, pas encore. Pas encore. De mes ancêtres, alors d'un côté, nous avons donc de la paysannerie bretonne.
Oui.
Et puis de l'autre, c'est beaucoup plus compliqué parce que donc les Américains sont venus de plein d'endroits différents. Et j'ai donc des origines irlandaises, hollandaises, anglaises, françaises d'Alsace et allemandes. Et
avec des figures un peu presque héroïques dans la famille.
Un peu étrange, oui. Il y avait cette femme, cette arrière-grand-mère qui était diplômée d'université en 1895, qui était une des seules de son université. Donc voilà, dont mon père est assez fier. Et puis, ça c'était en Virginie. Et puis en Californie, du même côté de la famille, il y avait, pareil, en 1880, je dirais, dans la même famille, un bank robber, comment dire, j'allais dire un bandit de grand chemin, mais ce n'est pas ça.
Un John Wayne?
Non, pas un John Wayne.
Un cowboy.
Un braqueur de banque. Braqueur de banque.
C'est pareil.
Oui. Braqueur de banque et dans la même famille, il y avait un shérif.
Voilà. Ah.
Donc, des histoires un peu de western.
Mais qui sont arrivées jusqu'à vos oreilles. Hein. La mythologie familiale a été entretenue, visiblement.
Ben, en fait, j'ai découvert assez récemment. Ça, j'en étais pas vraiment au courant. Donc, c'est assez étonnant, mais pourquoi pas. Tout est possible, apparemment.
On va en arriver à la clé de Rosemary Moriarty, c'est votre père. Il y a votre mère, bien sûr, mais juste un mot sur lui. Il naît donc aux États-Unis. Et puis, il arrive en quelle année en France et dans quelles circonstances?
Alors, il est né aux États-Unis dans le Midwest. Et puis, il part pour la Californie. Et puis, dans les années 75-76, il vient en France. Il arrive en France, il fait un voyage. Et puis, il reste. Il ne repart pas. Et je pense que ça correspondait plus à une façon de vivre et de penser... il y avait en France une façon de vivre et de penser qui lui correspondait plus qu'aux États-Unis, j'ai l'impression.
Donc c'est un peu, vous disiez, l'histoire d'un Américain à Paris, c'est-à-dire qu'il vient faire l'artiste à Paris?
C'est pas exactement ça. Quand je dis que c'est un Américain à Paris, c'est qu'il est vraiment resté américain quand même. Alors il a choisi la France comme pays d'adoption, mais en même temps il est quand même resté très américain, c'est-à-dire qu'il parle très peu français. Il est resté beaucoup pendant très longtemps dans un milieu anglo-saxon parce que les musiciens avec qui il travaillait, donc il est musicien et chanteur, je précise, étaient anglo-saxons. Et du coup, c'est assez étrange parce que c'est un personnage, c'est vraiment un personnage que moi je dis très très de free spirit, vraiment d'esprit libre et
libre penseur,
ouais. Et qui donc, je pense que pour lui, le Midwest, ça lui correspondait pas du tout. Je pense qu'il y avait quelque chose d'un peu étriqué. Il vient d'une famille très républicaine.
La propagande du rêve américain, ça a glissé sur lui.
Non, ça n'a pas glissé sur lui, mais je pense que, par exemple, politiquement, il pouvait pas. C'est quelque chose auquel il pouvait absolument pas adhérer, auquel ça lui correspond pas du tout. Je pense que donc il est parti, il a rompu avec. Avec cette Amérique-là, en tout cas.
Et vous en avez hérité de son Amérique à lui, en revanche?
Alors, j'en ai hérité un peu, effectivement, parce que lui, il a quand même il nous a raconté quand même son enfance. Il a beaucoup de souvenirs très heureux du temps où il a fait énormément de bêtises. Je ne vais pas raconter toute sa vie, mais bon, c'est quand même quelqu'un qui a cassé l'entrée d'un avion à l'âge de 6 ans pour essayer de le piloter. Enfin bon.
Ah oui. D'accord, oui. Ça rigole pas.
Non, ça rigole pas du tout.
D'accord. Chez les Stanley.
Complètement hyperactif.
D'accord. Mais il est dans une Amérique des années 50 complètement fantasmée. C'est-à-dire quoi?
Alors non, lui maintenant, non, il est quand même dans la réalité. Lui, il est vraiment dans une réalité aujourd'hui. En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il a rompu avec cette Amérique, mais qu'aujourd'hui, il est quand même en rupture aussi un peu avec la France, puisqu'il est un peu isolé. Puisqu'il ne parle pas vraiment français. Donc c'est
mais
un peu...
vous êtes dans une Amérique des années 50 fantasmée. Ça, on peut dire ça.
Alors
ou pas
un petit peu, ouais. Je dirais, mais pas. Je dirais pas rétro. Je dirais qu'elle est fantasmée. Je dirais pas qu'elle est juste années 50 parce que je crois que j'ai hérité aussi quand même de tout ce qui a suivi aussi des années 70, des années même 80, 90, mais plus effectivement des influences musicales, par exemple de son enfance. C'est lui ce qu'il a rapporté en tout cas au niveau musical. Il écoutait beaucoup de Hank Williams, il écoutait beaucoup la radio, la naissance du rock and roll. Il me racontait qu'ils écoutaient la radio jusqu'à 3h du matin pour entendre Elvis. Et évidemment, Elvis was evil. Et c'était la rupture entre les parents et les jeunes.
On va quand même être un poil élégant et dire un mot de votre mère.
Oui.
Personnage aussi ?
Personnage très, très, comment dire, assez charismatique et très énergique, on va dire, et qui travaille, qui est correctrice et qui donc travaille dans les journaux. Et donc j'ai le souvenir de l'avoir tout le temps avec un journal à la main et je suis un peu allergique aux journaux en fait, du coup.
Dans votre enfance, quels étaient vos modèles ou vos idoles?
Euh...
J'aime bien Rosemary. Moi, je veux dire, parce que là, c'est Rosemary au lever du lit. Et je l'aime beaucoup. Elle a une voix qu'il faut entendre, d'ailleurs. À un moment, je me souviens qui vous aimez. J'ai lu dans vos rêves. Il y a Alice, déjà.
Oui, c'est
un secret de Polichinelle, ça.
Oui, ça, c'est un secret de Polichinelle, parce que ça a été beaucoup raconté. C'est vrai que j'avais une fascination pour Alice. Et puis, en particulier, je sais pas pourquoi, mais cette première scène où elle tombe donc dans le terrier du lapin et où elle n'en finit pas de tomber. En fait, elle tombe dans le sommeil.
Et elle court après une certaine logique.
Oui, mais donc, c'est
ça vrai. Qui vous intéresse dans le monde d'Alice?
Elle court après une certaine logique, oui, mais non, je crois que c'est l'univers qui est complètement bizarre, ces animaux bizarres, ces questions bizarres. C'est les non-anniversaires. Moi, j'aime bien cette espèce de monde absurde, en fait.
Un anti-monde, presque.
Un peu.
Il y a John Lennon. On va aller un tout petit peu vite parce que l'heure tourne malgré tout. Lennon aussi vous a influencé. C'est le Lennon auteur-compositeur, le Lennon engagé.
Le Lennon auteur-compositeur, en fait. Mes parents avaient la cassette d'Imagine et je l'écoutais en boucle. Et j'étais complètement fascinée. Et longtemps après, j'ai découvert, en fait, que les Beatles, enfin, ils faisaient partie des Beatles. Donc j'ai découvert John Lennon avant les Beatles.
Donc on a Alice, bon d'accord, John Lennon, et puis curieusement on a Wagner aussi, qui fait partie de vos peluches.
Alors c'est pas un héros pour moi, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a accompagnée pendant l'enfance, puisque ma mère nous mettait Wagner pour nous endormir le soir. Et en fait, je me suis rendu compte quand même que ça nous faisait faire beaucoup de cauchemars. C'est très dense.
Peut-être le point commun finalement entre ces trois figures, c'est, je sais pas, la folie des grandeurs.
La folie des grandeurs.
Oui, je sais pas, entre Alice, John Lennon et Wagner. Non, c'est moi qui vois ça comme ça, vous voyez ça comme vous voulez. Une voix de contre-ténor allemand, est-ce que ça vous dit?
Oui.
Il s'appelle Andreas Scholl et vous l'avez programmé avec Wayfaring Stranger.
Oui.
Pourquoi?
Alors, pourquoi? D'abord, c'est une voix que je trouve magnifique. Elle est très émouvante, c'est une voix classique, mais les contre-ténors ne sont jamais si classiques. Et l'autre chose que je trouve intéressante, c'est qu'il interprète en fait une chanson qui vient des Appalaches, et donc qui est chantée de façon classique, mais qui est quand même, qui est très américaine et très, moi que je connaissais, très traditionnelle.
I am a poor wayfaring stranger, while traveling through this world of woe. Yet there's no sickness, toil, nor danger in that bright world which I go. I'm going there to see my father. I'm going there no matter what. I'm only going over Jordan. I'm
sur RFI et dans les oreilles de notre invitée, la chanteuse franco-américaine Rosemary Stanley Moriarty, qui revient nous parler du vinyle et des Andrew Sisters dans 3 minutes.